Jean dirait des nouvelles.
Jean-François Cadet.
Mickaël Goncalves.
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Ils ont déchiré mon livre, mais tous les signes qui vivent en moi, personne ne peut y toucher. C'est ma liberté entière, secrète. C'est la liberté de chacun qui veut bien tenter l'aventure. Ces quelques lignes, on les trouve dans un recueil de poésie paru en février dernier, L'exil n'a pas d'ombre, de Jeanne Benhamor. Mais la poétesse est aussi romancière, et la voici de retour en librairie avec un autre livre qui nous parle d'exil, de liberté, d'aventure. Un roman dans lequel chaque personnage écrit sa vie comme un poème, où à travers les mots du théâtre, les notes de la musique, les touches de la peinture, les images de la photographie, bref, tous ces arts qui peuvent nous livrer une intimité de cœur, de corps et d'esprit. Ceux qui partent, de Jeanne Benhamor, est paru aux éditions Actes Sud, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Jeanne Benhamor.
Bonjour.
Il y a une continuité entre ce recueil de poésie et ce roman?
Oui, si l'on peut dire, parce que L'exil n'a pas d'ombre a été écrit au départ pour la scène, une scène de Clermont-Ferrand, il y a 10 ans. Donc, vous voyez, ça remonte. Et je l'ai donné en publication parce que je sentais que c'était le moment où je pouvais partager ça, parce que tout ce qui est écrit n'a pas forcément à être partagé immédiatement pour moi. Et donc, j'ai revisité ce texte. Parce que justement, il y avait ceux qui partent, qui étaient au travail déjà. Et c'est comme si, en fait, le texte poétique était le chiffre du roman à venir. Mais ça, je ne le sais pas au moment où j'écris. Alors, mais je suis contente que vous ayez fait le lien.
Alors, ce récit, justement, je parle du roman cette fois-ci, il se déroule dans un espace extrêmement court, une journée et une nuit. Nous sommes à Ellis Island en 1910. Ellis Island, c'est la porte d'entrée de New York et des États-Unis pour la plus grande partie des nouveaux arrivants. Et pour vos personnages, ce moment extrêmement court, je le répète, c'est un peu un moment de l'entre-deux. C'est un point de bascule.
Oui, c'est vraiment le moment où, à l'intérieur de soi, il faut, c'est la nécessité d'aller chercher le plus vif de la vie pour pouvoir aborder ce qui va nous attendre, c'est-à-dire la vie nouvelle, et pouvoir avoir le regard neuf sur la vie nouvelle.
Donc on est à la fois dans la vie d'avant, sans être complètement dans la vie d'après, tout en y étant déjà un peu. C'est compliqué.
Oui, c'est ce moment extrême, intense, où l'on n'a plus que son propre corps à quoi s'arrimer pour pouvoir aller de l'avant, puisque même la langue, qui est quand même notre refuge ultime, même la langue va devenir étrangère.
Alors la langue, on va en parler dans un instant, mais je voudrais, puisque vous évoquiez justement cette question de la langue, qu'on s'intéresse justement au titre de votre livre et au mot « émigrer ». Émigrant, parce que c'est ce mot-là que vous avez choisi, et pas le mot migrant, ou pas le mot immigrant. Pourquoi est-ce que vous avez choisi comme titre « Ceux qui partent » et pas « Ceux qui arrivent » Jeanne Benhamor.
On peut se poser la question, effectivement, parce que pour moi, le moment de bascule, il se fait avec justement la notion de départ. La notion d'arrivée, elle est plus tardive, elle m'intéresse moins. Et j'ai choisi le terme d'émigrer, parce que ça dit bien étymologiquement sortir d'eux.
Ex-migrer, hein,
ex,
oui.
Voilà, c'est l'étymologie pour bouger. Et pour moi, ceux de New York qui sont déjà arrivés, qui sont installés, sont obligés aussi de faire cette bascule pour sortir un peu de cette sorte de confort dans lequel ils se sont installés pour pouvoir accueillir ceux qui arrivent.
Alors, ceux qui arrivent, on les découvre hein, au fil de vos premières pages. Il y a Donato Scarpa, un comédien italien, et sa fille Emilia. Il y a Gabor, le gitan violoniste. Il y a Esther, une femme à l'air très étrange, dont on découvre assez vite que c'est une rescapée des massacres d'Adana en Arménie en 1909. C'est des personnages qui sont donc d'origine, de milieux sociaux, de références culturelles différentes. Et puis, il y a ceux, effectivement, qui sont déjà là, sur place, et qui sont eux aussi des émigrants ou des fils d'émigrants. Il y a Andrew Johnson, le photographe, qui est là et il est salon pour photographier les nouveaux arrivants, dont la mère descend des passagers du Mayflower, donc vraiment les premiers migrants qui ont fondé l'Amérique, dont le père lui a quitté l'Islande très jeune et très pauvre avant de faire fortune au Nouveau Monde. Comment est-ce que vous avez fait ce casting, si j'ose dire cette distribution, puisque vous écrivez aussi pour le théâtre? Comment vous avez ciseler vos différents personnages sur la photo?
En fait, quand moi je me suis retrouvée à Ellis Island, c'était juste au moment de la mort de ma mère. Donc j'ai fait ce voyage à New York, je suis allée à Ellis Island. Ma mère était italienne et elle vient de Vicence, sa famille vient de Vicence. Donc c'est l'Italie du Nord. Hein. Et on venait de ranger les photos de famille et j'ai retrouvé, avec les photos des grands-parents, quand je suis allée à Ellis Island, j'ai retrouvé ces visages d'Italiens qui étaient là. Donc, l'Italie est arrivée très vite. Elle était induite déjà par mon voyage. Et très vite, il y a eu le personnage d'Emilia qui est arrivé. Après, je lui ai adjoint Donato, parce qu'elle ne pouvait pas voyager seule. C'était impossible à l'époque. Donc, j'ai hésité entre un frère, un père. Bon, c'était un père qui est arrivé. Et puis, il y a eu très vite aussi le personnage de Gabor, c'est-à-dire qu'il y avait cet autre homme qui parlait une autre langue. C'est les corps qui allaient se rencontrer très, très fortement. Et je savais déjà qu'à la sortie, bon, on verrait ce que ça donnerait, mais il n'y a pas forcément de happy end dans les histoires. Esther est arrivée après, quand j'ai fait toutes les recherches que j'ai faites sur Ellis Island et que j'ai regardé beaucoup, beaucoup d'autres photos et que j'avais trouvé la photo d'une vieille arménienne qui écrit, assise sur sa valise. Et puis, bon, l'imaginaire a fait son travail et c'est devenu Esther, qui est une femme d'une cinquantaine d'années, qui crée des vêtements, qui aime habiller le corps des femmes, mais qui vient de ce massacre d'Adana.
Oui, et on sent effectivement depuis le début de cette émission combien les photos vous ont guidé hein, dans la création oui. de cet ouvrage. Et c'est peut-être aussi pour ça que Andrew Johnson est photographe.
Il est photographe. J'aime le travail photographique. J'aime l'image arrêtée. Ça me plaît beaucoup pour l'imaginaire. Et l'Islande est venue à cause de la littérature. C'est parce que je lis les auteurs islandais, c'est parce que Stephenson, avec Entre ciel et terre, m'a complètement embarqué, que j'avais envie de m'offrir petit voyage islandais.
Alors ce photographe Andrew Johnson, qui est effectivement d'origine islandaise, il se demande ce que ça signifie être un vrai Américain. C'est l'expression qu'il utilise, ouais. Un vrai Américain. Il se demande jusqu'à quand reste-t-on fils, petit-fils, arrière, petit-fils, arrière, arrière, petit-fils, éventuellement deux. Vous-même, vous êtes né en Algérie, d'un père tunisien, d'une mère italienne, vous le disiez. Ouais. Tout à l'heure, vous êtes vous aussi une émigrée.
Mais évidemment.
Est-ce que vous avez la réponse à la question d'Andrew Johnson? Jusqu'à quand on reste fils, petit-fils ou petite-fille deux?
Je pense que je n'ai pas la réponse, mais j'ai un élément de cheminement. Je pense que ce ne sont pas les autres qui peuvent vous dire si vous êtes fils, petit-fils, etc. Il y a ce que vous savez à l'intérieur de vous, il y a la verticalité qui vous lie à vos ancêtres, hein, qui sont enterrés loin, et quelquefois ils sont enterrés là où vous n'êtes pas, mais par la langue que vous parlez, par la langue par laquelle vous imaginez et par votre pensée, vous pouvez juste être quelqu'un qui est au monde à un moment, dans un mouvement de vie, dans une langue.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Avec Jeanne Benhamor, dans le nouveau roman Ceux qui partent est publié chez Actes Sud, un roman que vous pourrez gagner pour certains d'entre vous en répondant à les questions que je vous poserai un petit peu plus tard dans l'émission via notre page Facebook. Alors on parlait de nouvelle vie pour ces émigrants, Jeanne Benhamor, à l'instant, d'une forme de liberté nouvelle, parce que la liberté est aussi un mot qui est une sorte de phare sur la route de vos personnages. Et cette liberté-là, ils vont l'acquérir par différents truchements, et notamment, vous avez employé plusieurs plusieurs fois ce mot-là depuis le début de l'émission, par le truchement de la langue. D'ailleurs, le mot langue, il est revenu dans votre bouche, il revient aussi très régulièrement sous votre plume à l'intérieur de ce livre. La langue, c'est la clé de tout, c'est la clé de la vie, c'est la clé de l'existence, c'est la clé du passé, c'est la clé du présent, c'est la clé du futur.
C'est sans doute la seule chose que nous ayons en tant qu'être humain pour nous lier au monde. Et nous avons toute notre vie pour la travailler, puisque nous venons du lieu où ça ne parle pas, quand nous étions dans le ventre de nos mères. Quand nous sortons du ventre de nos mères, nous ne parlons pas. Nous sommes infants, celui qui ne parle pas encore. Et c'est notre corps qui perçoit le monde. Le rapport au monde se fait par le corps. Et ensuite, nous entrons dans l'articulation, nous entrons dans l'alphabet. Alors c'est à la fois le grand arrachement, comme quand on quitte une langue maternelle. Là, on quitte le silence du ventre maternel, le silence bruissant du corps de l'autre, pour entrer dans l'articulation de la langue. Après, nous n'avons plus qu'à la travailler le plus justement possible pour essayer de retrouver ce que je pense nous ne retrouverons jamais, mais nous essayons de nous en approcher par l'écriture, par la peinture, par tous les arts, et essayer par le mot juste d'atteindre cette chose qui est indicible en fait, et qui serait notre lien aux autres.
Alors il y a effectivement la langue des mots, qu'ils soient dits ou qu'ils soient écrits, et puis il y a effectivement deux autres langues, peut-être un peu plus universelles celle-là, il y a la langue des corps, on va y venir dans un instant, et puis il y a la langue de la musique aussi, et la langue de la musique c'est peut-être la langue la plus universelle qui soit.
Et oui, là on n'a pas besoin d'apprendre, on peut, et d'ailleurs les musiciens qui se retrouvent dans tous les pays du monde le savent, ils ont cette joie à se retrouver, à jouer ensemble, et la voix humaine et quelque chose qui nous relie les uns aux autres et qui c'est magique.
Alors plusieurs de vos personnages sont musiciens, il y a notamment Lucille qui est la jeune fille de bonne famille que la mère d'Andrew aimerait bien voir son fils épouser, et puis il y a Gabor, donc le gitan qu'on évoquait il y a un instant, qui est violoniste, et son violon est au cœur d'une scène clé du livre, une scène qui va marquer les personnages principaux, notamment parce qu'Emilia va se lever en entendant le violoniste jouer, déployer sa chevelure, ce qui va laisser absolument personne indifférent. Nous sommes pas 64 de votre roman.
Il se met à jouer. D'emblée, les autres ont compris que Gabor est dans un de ces moments où l'inspiration le guide jusqu'au bout des doigts. Les hommes d'abord hésitent, écoutent, puis la danse leur vient. Impossible de résister au violon de Gabor. Les anciens scandent le rythme et parfois on entend un « hoppa ». Les femmes laissent les hommes danser. C'est un pas sauvage d'homme qu'appelle d'abord le violon de Gabor. C'est une danse de l'arrachement et de la joie qui vibre dans l'air quand on offre son visage au vent. C'est une danse qui ravit le cœur des femmes et leur fait empoigner la chevelure des hommes pour le baiser ardent. Il y a dans la musique de Gabor toute la rage des poings du père et tous les plis de la jupe de la jeune fille, là-bas. Qu'elle l'entende au moins, si elle ne le voit pas. Qu'elle entende la musique de sa route à lui, celle qu'il veut maintenant. Dans son violon, il y a le vent furieux et de hautes vagues, car le voyage sur l'océan est encore là. Il secoue ses boucles noires. Tout son corps est tendu dans la fougue de la musique. Maintenant, les femmes se sont levées à leur tour. Elles entrent dans la danse des hommes d'un large frisson de jupe. Leurs visages sont graves et leurs yeux brillants. Chacune a choisi son homme et deux par deux, hommes et femmes s'affrontent, se frôlent, se cherchent. Le violon de Gabor est infernal de nostalgie et de violent désir. Ils ont réveillé les émigrants qui attendaient. Les femmes, entourées d'enfants, envient la liberté de celles qui dansent sans rien masquer de leur désir. Les hommes hochent la tête. La main d'un petit quitte celle de sa mère pour se lever. Autour du groupe des bohémiens, un frémissement. Des voiles se gonflent dans les cœurs et des rêves reviennent. Ceux auxquels on n'osait plus croire, tournoyant dans la danse. Et Gabor joue, les yeux fermés. Il joue pour la jeune fille et pour tous ceux qu'une peine lointaine rattache encore au pays abandonné. Il joue pour que l'espoir qu'il a dans le cœur vibre autour de lui et enflamme. Que les cœurs de tous ceux qui piétinent ici flamboient. C'est l'Amérique et elle est pour tous. Bien sûr, Emilia l'entend. Qui ne l'entendrait pas? Mais elle ne bouge pas. Quand elle a commencé à entendre le violon, elle s'est demandé si c'était un rêve. Elle a gardé les yeux fermés. Esther a entendu aussi. Les deux femmes écoutent. Le violon joue et la musique vient les chercher. Oh, juste se laisser porter d'une émotion à l'autre. Voyager, voyager. Esther a levé la tête. Le violon, ici, c'est la vie soudain qui essaie de se frayer un chemin. Le violon dit qu'émigrer, c'est espérer encore. Avec vaillance. Avec la force de ceux qui n'ont plus rien que leur désir. Le violon dit que le désir est tout. Tout. Et qu'avec le désir, on peut vivre. Il chasse le marasme de l'attente et de la peur de tout ce qui les guette dans quelques heures, dans quelques jours. Il dit que chacun a dans le cœur le souvenir de jours heureux, de ceux qu'on veut revivre de toute son âme, quelque part, ailleurs. Et qu'importe que la terre soit aride et le regard des gens encore soupçonneux, on émigre, on espère.
On émigre, on espère, écrivez-vous Jeanne Benhamer. Dans cet extrait, il y a beaucoup de choses. Il y a l'espérance, il y a le désir, il y a la vaillance, comme vous l'écrivez. La vaillance, autrement dit, la bravoure, le courage d'affronter les souffrances, les difficultés, le courage de quitter son passé ou d'affronter l'avenir.
Les deux se fondent dans un même mouvement, en fait. Ça se fonde dans l'élan qui vous pousse à aller vers l'avenir et qui vous oblige forcément à vous arracher au passé. Je pense que c'est le même mouvement.
Et puis le désir qui nous ramène effectivement au corps, qu'on n'a pas encore évoqué, qui est pourtant aussi très très important à l'intérieur de ce roman. Le corps et même le sexe, disons-le, c'est aussi une langue universelle, Jeanne Benhamer.
Je pense que ça peut l'être. Et dans ces moments où justement on perd sa propre langue, parce qu'on sent que on va aller vers une langue nouvelle, que sa propre langue va devenir étrangère dans le pays où l'on est, on n'a plus que son corps à quoi se tenir. Et dans ce cas-là, les perceptions deviennent mille fois plus aiguës, plus intenses. Et on est dans cet état d'alerte et de vigilance qu'on perd dans la vie quotidienne, quand on est tranquillement installé dans nos maisons et dans les habitudes du quotidien. Et là, c'est ce corps-là qui est requis tout d'un coup et qui va jouer sa partie.
Alors il y a dans le livre un personnage qui va voir sa vie basculer après avoir fait l'amour, on va pas en dire plus, et il y a aussi un autre personnage qu'on n'a pas encore cité, c'est le personnage d'Ezel, qui apparaît dans le cours de l'histoire. C'est pas un personnage majeur au début du livre, mais il apparaît, il prend de plus en plus de place dans la dernière partie. Ezel, pourquoi est-ce que vous aviez besoin de ce personnage? C'est une prostituée, Ezel, disons-le.
Oui, c'est une prostituée, mais c'est elle, justement, c'est celle qui a laissé son corps dans l'enfance et qui vit du commerce de son corps et de la science savante vraiment qu'elle a du corps des hommes, mais qui se répète son nom pour ne pas l'oublier, son vrai nom. Hazel, c'est le nom qu'elle a dans la maison close. Ça n'est pas son vrai nom qu'elle n'a pas donné. Et elle va faire la bascule de récupérer son propre corps. Et ça passe par Andrew, cette affaire-là. Parce que le fils de famille a aussi un corps et voilà.
Vous m'en direz des nouvelles? Sur RFI.
VMDN sur RFI avec le piano du compositeur et interprète italien Ludovico Einaudi pour Devinere, un titre qui donne le nom à son album sorti en 2006 et que vous avez voulu mettre en épigraphe de votre roman Jeanne Benhamer. Pourquoi?
Eh bien, parce que j'aime.
C'est une bonne raison.
J'aime beaucoup écouter Einaudi. Et Devinere a cette espèce d'élan comme ça qui vous emporte. Et j'avais envie. Après tout, on met tout le temps des phrases d'auteur. Alors, il y a celle de Barbara Cassin, que j'aime beaucoup. Mais pourquoi pas une musique aussi?
Alors peut-être qu'il y a aussi la musique de la langue qui inconsciemment ou pas vous a guidé, parce que ouais. Deinodi à Énéide, il y a quelques sonorités, quelques lettres de différence.
C'est vrai.
Et il se trouve que l'Énéide, le fameux récit de Virgile, est aussi au cœur du roman. Alors l'Énéide, c'est pas le livre de chevet, c'est pas la Bible, c'est plus que ça. C'est le viatique finalement d'un de vos personnages, l'Italien, le comédien Donato Scarpa.
C'est le viatique de Donato.
Oui. Il l'a lu, il l'a relu, il l'a toujours avec lui. On voit tout de suite le vieux livre abîmé, tordu, mais qui compte réellement pour lui. Pourquoi l'Énéide, Jeanne de Navarre?
Parce que moi, depuis que je suis enfant, Aîné est un personnage qui m'a attirée. Et plus qu'Ulysse. Et c'est grâce à Barbara Cassin, dans La Nostalgie, que j'ai compris pourquoi. J'ai été attirée autant par Aîné. Aîné, c'est celui qui part et qui ne reviendra pas. Et qui le sait. Qui le sait. Au plus profond de lui, il le sait. Il s'est retourné. Sa femme Créuse avait disparu dans l'incendie de Troie. Et il prend son fils, il prend son père sur ses épaules et il part. Et il sera obligé de faire souche ailleurs.
Bonjour Maëlle Poésie.
Voilà. Bonjour.
Merci de nous rejoindre. Vous êtes comédienne, metteuse en scène, et avec Kevin Case qui a traduit et adapté le texte de Virgile, vous avez monté une version contemporaine, presque éternelle aussi, finalement, de l'Énéide, intitulée Sous d'autres cieux, qu'on a pu découvrir au dernier festival d'Avignon. Alors, même question qu'à Jeanne Benhamor, pourquoi l'Énéide et pourquoi l'Énéide aujourd'hui?
Pourquoi l'Énéide aujourd'hui? C'était un travail, donc l'adaptation, on l'a faite ensemble avec Kevin. Et c'est un travail qu'on a commencé il y a maintenant quasiment 2 ans. Et je crois que j'avais très envie, en fait, de travailler sur un récit qui parlait d'un récit des origines, puisque c'est le cas, mais c'est plus qu'un récit des origines, c'est des récits des origines. L'Énéide.
Parce qu'il y a l'Aîné et ses compagnons.
Voilà. Et puis, de toute façon, c'est, en soi, Virgile s'inspire déjà d'autres histoires pour recréer cette histoire. Donc, il y a vraiment cette idée qu'il n'y a pas, en plus, il est en quête d'une terre hospitalière pendant tout ce voyage. Mais il y a l'idée de ne pas venir de quelque part de précis, en fait. Et ça se questionne en permanence dans l'histoire. Et dans la pièce, donc. Et que finalement, cette notion-là peut questionner aujourd'hui ce qu'on appelle l'identité nationale, c'est-à-dire d'être plutôt dans une idée d'identité en mouvement perpétuel, plutôt que dans une idée d'identité fixe.
Est-ce que c'est l'actualité autour de ceux qu'on appelle les migrants qui vous a incité, comme beaucoup d'écrivains, comme beaucoup de créateurs, à privilégier ce thème?
Évidemment, de toute façon, c'est cette histoire-là, quasiment tous les jours en tête, aujourd'hui. Après, je pense que c'est quelque chose qui est plus ancien pour nous, que ce soit pour Kevin ou pour moi, quelque chose qui touche à nos identités, en tout cas, en mouvement. Et puis, je crois que j'avais envie que, justement, on travaille sur un poème intemporel, quelque chose qui soit de l'ordre de la profondeur et de la force de la métaphore. Et que le voyage d'Aîné, donc s'il est déjà à la source d'un de vos personnages qui est en partance pour l'Amérique, c'est comme je disais un récit qui mélange plein d'autres récits, et je pense que c'est aujourd'hui un récit qui pourrait être la source des récits futurs des futures migrations ou d'actuels.
Sauf erreur de ma part, Jeanne Benhamor, le mot identité qu'on vient d'entendre dans la bouche de Maëlle Poésie n'est pas dans le roman.
Jamais.
Il y a une raison.
C'est pas un mot pour lequel j'ai de la sympathie.
Pourquoi?
Allez savoir.
J'aimerais bien savoir, justement.
Eh ben, je peux me poser la question. Il y a le beau texte, il n'y a pas d'identité culturelle. Voyons, j'oublie le nom de l'auteur, ça me reviendra. Je pense que c'est tout ce qui est identité fige quelque chose pour moi. Je sens tellement qu'on est en mouvement tout le temps. Vous parliez de mouvement, mais la vie est un mouvement. Donc, à un moment, s'arrêter sur une identité, c'est... Il faudrait à chaque fois dire l'identité du moment. Ça me plairait.
Et donc, Aîné, il adopte plusieurs identités au fil de son voyage, Maëlle Poésie, parce que vous parliez de quête d'identité.
Je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que j'ai l'impression que quand on commence, que ce soit la pièce ou le livre de Virgile, on commence avec l'identité de quelqu'un qui est troyen. Et c'est une identité importante, puisqu'en fait, ça fait 10 ans de guerre en confrontation avec les Grecs.
Troyen et il est vaincu.
C'est celui qui a perdu. Il est vaincu. Et il assiste donc au massacre et à l'incendie de sa ville. Et il laisse derrière lui cette identité troyenne. Pour moi, c'est quelqu'un qui va être en mouvement perpétuel par rapport à cette question-là. Et qui va ne faire que tenter et chercher, en cherchant une terre hospitalière avec le petit groupe de personnes avec lequel il part, de trouver comment réinventer quelque chose, en fait. Et aussi, j'ai l'impression que les différentes étapes qu'il traverse, que ce soit à Carthage, la rencontre avec Didon, et puis plein d'autres, à chaque fois, il y a cette question, finalement, de nouveaux rituels, d'un nouvel apprentissage, de nouvelles croyances, de nouvelles langues, et que c'est tout ça qui fait de lui cette personne qui arrive à la fin en Italie.
La terre s'éloigne. Nuit noire. Pas un souffle de vent. Nous voici face au silence insondable de l'immensité. Le bruit des rames et le bruit des eaux. Nous confions nos voiles au destin, sans savoir où celui-ci nous portera. Les jours passent. Le soleil surgit. Et le soleil s'écrase dans les flots. Nous voguons. Sans un mot, chacun perdu dans son fracas.
Le texte du spectacle, les mots qui sont dans la bouche de vos comédiennes et comédiens, Maëlle Poésie, il est hybride. Hein. Il y a des passages de Virgile, traduits par Kevin Case. Et puis, il y a aussi des passages que vous avez avec lui écrits, donc des passages originaux. Pourquoi justement ce format hybride ?
De toute façon, c'est dans notre façon de travailler depuis longtemps. Il y a cette idée de l'adaptation. Il y avait vraiment l'envie de certains moments précis du poème et d'une traduction faite par Kevin. Et puis, il y avait aussi, je crois, l'envie d'une nouvelle écriture qui soit un mélange entre l'écriture scénique, entre autres le moment qu'on vient d'entendre, il est chorégraphié. Bon, ça s'entend pas à la radio. Mais sur le plateau, il est chorégraphié. La danse nous permet en fait de raconter aussi le voyage. Et c'est vrai que l'écriture de Kevin, sur certains moments, me semble importante, sensible, en fait, pour aussi donner un aspect d'une certaine modernité à certains passages, mais ça s'inscrit quand même dans une unité globale.
Oui, c'est-à-dire que les deux types de passages ont une musicalité qui se rapproche.
Il y a une musicalité commune, il y a une rythmique commune, et puis il y a l'unité de langue que Kevin utilise, en tout cas, et dans la traduction.
Ah, il y a des passages qui sont pas en français, Maëlle Poésie.
Oui, non, mais ils sont traduits d'une traduction. Donc en fait, il y a déjà de toute façon une unité de langue au texte entier. Et puis après, on a fait appel évidemment à des traducteurs pour les parties qui sont en italien, en farsi, en espagnol.
Alors vous, à la fin du roman Jeanne Benhamor, vous remerciez Paul Venn pour sa traduction de l'Énéide. Traduction qui a été, enfin qui a suscité beaucoup de, pas de polémique, le mot est beaucoup trop fort, mais qui a suscité beaucoup de réactions, quoi, qui était une traduction très très forte, qui pouvait pas laisser indifférente.
Ah ben moi je trouve que c'est celle qui me convient le mieux. J'ai lu 3 traductions de l'Énéide et je trouve que Paul Venn, c'est celui qui est le plus proche vraiment du texte et qui donne, en étant très proche du texte, qui donne vraiment à voir et qui permet de sentir vraiment ce qui a été écrit dans la scène où on détourne les épaules du bûcher qu'on est en train d'allumer pour le mort. C'est pas tourner le dos, quoi. Il y a une traduction qui dit tourner le dos. Non, on ne tourne pas le dos au bûcher. On se détourne comme si le regard ne pouvait pas accompagner le geste. Et là, du coup, on a la scène, on la voit. Alors j'aime beaucoup.
Alors puisqu'il est beaucoup question de langue et de musique, dans le roman, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la langue de Virgile retranscrite ou retraduite par Paul Venn ?
Moi je trouve que Paul Venn, il a réussi à donner à cette langue la chair. Et c'est ça qui m'intéresse dans la langue. Bien sûr, on sait que le texte de Virgile était un texte de commande, etc. N'empêche que la chair, elle est là. Elle est présente. Et quand Énée, par exemple, sa dernière rencontre avec Didon, quand il y a tous ces mots qu'il n'a pas dit, qu'il n'a pas réussi à dire, moi je trouve que c'est magnifique. Et ça, Paul Venn le traduit de façon merveilleuse, puisqu'il laisse l'imaginaire de chacun s'emparer de ce silence d'aîné, qui n'est pas du tout un silence d'indifférence.
Maëlle Poésy, comment est-ce qu'on fait justement pour passer du texte, des mots, à la chair, comme le dit à l'instant Jeanne Benhamer? Ça, c'est évidemment le travail de l'adaptateur ou du metteur en scène.
Oui, mais en fait, déjà, justement, je trouve que la question de l'écriture ou de la traduction, elle est essentielle. C'est-à-dire que, justement, il faut trouver... Moi, j'ai aussi lu, évidemment, Paul Venn, que j'aime beaucoup. Mais on cherchait, je pense, une rythmique, en tout cas particulière, pour en fait aussi donner, je pense, corps à ces mots-là, et une forme de violence possible et de poésie possible mêlée. Et après, le corps est essentiel de toute façon dans le spectacle, parce que comme je le disais, il y a aussi une grande part de chorégraphie.
De chorégraphie, donc, et ce qui rejoint d'ailleurs le langage du corps, hein, que les personnages de Jeanne Benhamer utilisent un peu comme une forme d'épiphanie, hein, d'ailleurs, à l'intérieur du roman. Ça veut dire que les mots ne se suffisent pas à eux-mêmes, ça veut dire que les spectateurs qui sont sur les sièges dans la salle ont besoin de voir pour comprendre, de voir pour saisir, de voir pour ressentir.
Mais je sais pas si les mots ne suffisent pas, parce que quand on lit, en fait, notre imaginaire est suffisamment fort pour en fait être dans n'importe quelle situation en lisant des mots. Mais pour moi, le théâtre, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre du miroir, en fait, de l'empathie possible entre public et ce qui se passe sur le plateau. Et c'est vrai que je trouve qu'en fait, donner corps justement à ce mouvement infini, à ces départs, à ces retours, à ces tentatives d'arriver quelque part et puis d'échouer et de recommencer, ça devait passer aussi par un corps affecté, je dirais, par ça, et donc trouver une forme de traduction scénique aux mots.
Il pourrait être d'accord avec Maëlle Poésy, votre personnage, la Donato Scarpa, qui a une vision, on va dire, très ambitieuse, très noble, très revendiqué aussi de l'art dramatique, Jeanne Benhamer.
Mais il met en jeu son propre corps quand il lit. D'abord parce que la voix, c'est du corps, c'est notre souffle modulé. Et puis parce que son propre corps est en jeu sur scène quand il lit, et que effectivement, ça suscite l'imaginaire de celui qui est en face d'une autre façon que quand on lit. Parce que quand vous avez un autre corps humain en face de vous, il se passe quelque chose. Et c'est quelque chose d'autre. Et c'est cet autre-là qu'on va chercher quand on va au théâtre ou quand on va écouter une lecture. On va chercher ce rapport humain différent, vibrant, et on va chercher ça.
Voilà, il y a une scène du livre dans laquelle justement il lit un extrait de l'Énéide dans le dortoir des émigrants, et tout le monde ne comprend pas l'italien, hein, évidemment. Et pourtant, la force du texte, elle est là.
C'est la force de sa voix, c'est que les gens acceptent d'entrer dans la nuit, parce que la nuit est difficile, parce qu'on ne sait pas ce que sera le lendemain, et la voix de ce grand Italien qui lit pour eux les berce quelque part et leur permet d'aborder la nuit.
Comment est-ce que vous avez dirigé vos comédiens, Maëlle Poésy, du point de vue de la voix? Précisément, comment faire entendre un texte comme celui-ci dans une enceinte comme le cloître des Carmes à Avignon?
Non, mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que en plus c'était des œuvres, on l'oublie, hein, c'est pas forcément fait pour la lecture silencieuse, l'Énéide.
C'était le théâtre est fait pour être dit, pour être
voilà,
lu.
Voilà, l'Énéide c'était fait pour être performé par des gens qui faisaient de la pantomime à l'époque. Donc c'était fait pour être chanté, c'était fait pour être musical, c'était fait pour être créé de la performance, créé de l'émotion. Donc c'était déjà fait pour le théâtre, entre guillemets. Ou en tout cas, c'était fait pour partager quelque chose qui était l'ordre de la force performative. Et donc je trouve que c'est intéressant, parce que finalement nous on en a fait comme ça un livre écrit comme quelque chose de comme une vérité écrite, alors qu'en fait il y avait quelque chose qui était déjà corporel et déjà en fait physique et en mouvement. Comment on fait pour le mettre en voix? Je sais pas, il faudrait demander aux acteurs. Mais en tout cas, il fallait que les corps soient présents sur scène et une certaine force en fait pour porter cette poésie-là et qui soit inscrit dans une histoire qui soit justement la plus physique possible, la plus incarnée possible.
Je me nomme Sinon. Écoutez, je ne le nierai pas. Je suis grec. Mais si la fortune a fait de moi un malheureux, elle ne fera jamais de moi un menteur. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Écoutez-moi jusqu'au bout. L'armée grecque est partie. Ils m'ont oublié. Ils m'ont abandonné. Je n'ai plus de place nulle part. Apatride chez les Grecs qui m'ont laissé seule en terrain ennemi. Apatride chez vous, qui à cause de ces 10 années de guerre me haïssez. Ô peuple de Troie, au nom de Jupiter hospitalier, accueillez-moi chez vous. Je puis sans regret renier les engagements sacrés qui me liaient aux Grecs qui m'ont trahi. Et je peux étaler au grand jour tout ce qu'ils cachent.
Mais la poésie, le personnage de Sidon, c'est le personnage de l'espion, hein, pour faire ça. Mais c'est vrai qu'il rappelle un petit peu, effectivement, les personnages de Jeanne Benhamin dans le roman. C'est-à-dire que lui aussi, il est dans l'entre-deux, quoi. Lui aussi, il est entre le passé et le présent. Il est nulle part chez lui. Il est apatride, comme il le dit dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Quel que soit le camp qu'il choisit.
Ouais, j'avais très envie que ce soit un personnage qui ouvre le spectacle et qui s'adresse directement au public en plus de ça, puisqu'en plus il commence par cette phrase géniale qui dit « Je ne suis pas un ennemi ». Donc ne me tuez pas, je suis pas un ennemi, je ne suis plus ce que j'étais et je ne peux pas être encore ce que vous êtes. Donc je suis pile à la frontière, je ne suis nulle part, mais je suis avec vous. Et en fait, c'est vrai que ce démarrage, il était très important pour nous parce que ça touche évidemment à la question de l'apatride et en soi, donc la question aussi de peut-être de ce que disait Hannah Arendt, c'est que les réfugiés, c'est l'avant-garde des peuples. C'est-à-dire que ceux qui sont en mouvement et ceux qui arrivent ont tout à prendre.
Et on a à apprendre effectivement des apatrides et des réfugiés, Jeanne Benhamor ?
Ben je pense, oui, bien sûr.
Et on n'en a pas tellement conscience.
Non, mais ce sont des états de notre propre humanité. Il y a toujours un moment où chacun de nous est apatride à l'intérieur de sa propre vie. Donc on apprend des autres, bien évidemment, parce que c'est jamais que la métaphore de ce qu'est une vie humaine.
On est entre le souvenir et l'avenir, entre la mémoire et le voyage initiatique à travers l'Énéide. La mémoire, Jeanne Benhamor, elle est aussi au cœur du roman, pas de façon brute, mais toujours un peu en filigrane, hein, d'un bout à l'autre du texte. La mémoire, pour un émigrant, c'est une richesse ou c'est un poids ?
La mémoire, c'est quelque chose qui fonde votre tissu corporel. Vous êtes fait de mémoire. Votre corps, il a une mémoire. Vos sens ont une mémoire. Après, il y a la mémoire consciente et la mémoire inconsciente qui jouent. Et de toute façon, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Alors, il y a des moments, effectivement, où dans notre mouvement, la mémoire peut être quelque chose qui résiste, qui nous retient. Il y a des moments où, au contraire, la mémoire peut nous embarquer très fort vers l'avenir.
Maëlle Poésie.
Voilà, la mémoire. Non, mais c'était une chose absolument importante pour moi. J'ai commencé par travailler avec le centre Primo Levi, avec des médecins et psychiatres qui travaillent là-bas sur la question justement de la mémoire traumatique. Et c'est vrai que je cherchais avec le poème à en faire une narration de la mémoire parce que ce qui est revenu très souvent dans les entretiens que j'ai pu faire là-bas, c'est cette idée qu'en fait, l'exil, la sensation, c'est que l'âme est restée là-bas et qu'on se retrouve dans un espace-temps suspendu, finalement, entre le pays d'où on vient et le pays où on arrive, et que ça crée une forme de non-réalité. C'est-à-dire, on ne sait plus très bien si on est dans son souvenir ou dans la réalité ou dans sa vie. Et du coup, ça m'a passionnée pour la question de la mise en scène et pour voir comment, par bribes, par fragments, on réussit à reconstruire le voyage d'aîné grâce à ses souvenirs et à sa mémoire.
Alors, expliquez-nous concrètement, justement, dans quelle mesure ces entretiens avec ce chercheur en neuropsychologie, donc spécialisé sur les traumatismes des réfugiés, dans quelle mesure ces entretiens-là ont nourri votre spectacle ?
Bah parce qu'en fait, ça travaille sur nos sens, c'est-à-dire comment la mémoire revient, comment les souvenirs reviennent, comment ils s'inscrivent en nous. La mémoire traumatique, c'est entre autres, par exemple, d'avoir un souvenir qui se télescope avec la réalité, avec le présent. Donc c'était de partir de ces recherches-là, qui sont des recherches à la fois scientifiques ou à la fois qui venaient de récits qui m'ont été faits, pour pouvoir construire comment finalement aîné peut revivre ou se remémorer son voyage à travers certaines séquences du spectacle et donner la sensation au public qu'on ne sait plus très bien dans quel espace-temps on se trouve.
Aîné ?
Aligno !
Aîné ?
Aligno ! C'est moi ! Tu m'entends ?
Tu es mort ?
Aligno ! Dis-moi quel dieu t'a précipité au milieu des flots démontés ! Apollon nous avait juré que nul dieu ne te fera de mal !
Je suis tombée à l'eau ! Une vague plus forte que les autres a arraché le gouvernail dont j'avais la garde. Aîné, en m'abîmant dans les flots, je n'ai pensé qu'à toi, mon ami. Qu'à notre navire privé de gouvernail. J'ai dérivé. Durant 3 jours et 3 nuits, mes regards se perdaient dans l'immensité des mers. Et le 4e jour, une vague gigantesque m'a fait entrevoir des côtes. J'ai nagé et nagé vers l'Italie. Mais mes habits m'alourdissaient. Mes mains ont cherché désespérément à s'accrocher aux aspérités de la falaise. Je suis morte ainsi. Mon corps est devenu le jouet des flots. Les vents me roulent et me recrachent inlassablement sur les rivages. Je t'en supplie, aîné, retrouve mon corps et jette sur lui la poignée de terre qui me délivrera. Ne m'abandonne pas. Il me faut une sépulture.
Là, Maël Poésie, on est complètement dans l'actualité. Là. On n'est plus dans l'Antiquité. Là, on est
c'est
en
un
2019.
Magnifique, où Aîné retrouve Palinure, qui est la personne qui guide les bateaux dans tout ce voyage et qui meurt noyé dans la mer, et il le retrouve aux enfers. Et c'est vrai que ce personnage demande et supplie d'avoir une sépulture pour pouvoir avoir une âme apaisée. Et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là aujourd'hui qui est absolument bouleversant, c'est que tous ceux qui disparaissent en chemin n'ont pas de sépulture, il n'y a plus d'endroit qui les permet de se recueillir sur leur tombe.
Jeanne Benhamer, est-ce que les exilés peuvent trouver une âme apaisée ?
Il faudrait demander ça à la lignée d'où je viens. Je ne peux pas parler pour les autres, mais ce que je peux dire, c'est qu'on trouve dans la langue quelque chose qui permet de, justement, retrouver les morts qui ne sont plus sous nos pieds, parce qu'on les a laissés très loin, et par la langue, par la mémoire, par l'écrit, par la parole, quelquefois adressée, on peut se redonner cette verticalité dont on a besoin en ayant les pieds posés sur un sol qui est nu et qui est vierge de nos morts, oui.
Il y a eu la poésie, il y a eu le roman, est-ce qu'il y aura une pièce de théâtre aussi sur l'exil, signé Jeanne Benhamer.
Je ne sais pas s'il y aura une pièce de théâtre sur l'exil, mais il y a du théâtre dans ma tête qui travaille. Oui, quelque chose qui pourrait s'appeler « Nous attendons les hommes ».
Merci beaucoup, Jeanne Benhamer. Merci beaucoup, Maëlle Poésie.
Merci.
Sous autres cieux, votre spectacle Maëlle Poésie est en tournée du 28 novembre au 7 décembre au Théâtre Dijon-Bourgogne, les 17 et 18 décembre au Granit à Belfort. Ça continue en 2020 avec successivement Antibes, Château-Vallon, Bayonne, Rouen, Marseille et ainsi de suite. Pas de date parisienne ?
Pas encore.
Pour l'instant, ça va venir. Ça va venir. Vous nous tenez au courant, évidemment. Jeanne Benhamer, donc ceux qui partent chez Actes Sud, un livre dont nos auditeurs peuvent gagner donc 4 exemplaires en répondant à une question sur notre page Facebook en message privé. Hein, j'insiste parce qu'évidemment, si vous notez sur le mur, vous donnez la bonne réponse aux auditeurs qui peuvent éventuellement se connecter après vous. Donc en message privé via notre page Facebook. La question est la suivante, c'est une question extrêmement simple. On en a longuement parlé tout à l'heure dans l'émission. De quel instrument de musique joue Gabor, le personnage du gitan dans le livre de Jeanne Benhamer? De quel instrument de musique joue Gabor? On en a donc parlé tout à l'heure. Que le meilleur et le plus rapide gagne. La musique, justement, tout de suite. Sombre animal, Brune, c'est le titre qui donne son nom à l'album de cette jeune chanteuse française. Bonjour Alain Pilot.
Bonjour Jean-François, bonjour Jeanne Benhamer et bonjour Maëlle Poésie.
Alors ce sombre animal est-il un animal obscur ?
Plutôt mélancolique, c'est le terme qui vient régulièrement à l'esprit de Brune pour évoquer ce second opus. Accompagné par Valentin Montu, son compagnon à la scène comme à la ville, Brune est parti de sons de synthétiseurs, de sons de machines en y ajoutant guitare et batterie. Le tout donne un mélange de pop, de rock et d'électro plus mature, plus intense que le précédent disque qu'elle assume plus.
Je pense que je suis un peu plus cash dans les mots. Et puis oui, et puis arrêter de vouloir faire des chansons joyeuses. Parce que pour le premier disque, c'est vrai que j'avais fait deux chansons joyeuses en me disant « Oh, c'est quand même assez triste hein, ce que t'écris. » Et puis, ben, en fait, je me suis dit ben, « Ton truc, c'est les chansons mélancoliques, donc reste dans ton truc. » Voilà, donc j'assume qui je suis, j'essaye, hein, c'est pas terminé encore le travail.
Fil de fer, Brune qui consacre une chanson non pas à Ellis Island mais à Amsterdam, terre hospitalière s'il en est, ville qui la charme mais particulièrement sous la neige.
J'adore Amsterdam l'hiver, effectivement, c'est ma saison préférée là-bas. Il y a une sorte de... je me sens calme, apaisée là-bas. Oui, je pense que j'ai dû y vivre, vraiment, parce que la première fois que j'ai mis les pieds, c'était comme chez moi, même si j'ai eu du mal avec le nom des rues. En Straat, etc. J'ai l'impression que rien ne peut m'arriver là-bas, que je suis bien, tout simplement.
Je repense à l'hiver, à Amsterdam. En décembre, nous marchions loin des flammes. Des mésaventures.
Brune sur RFI. Amsterdam, ville popularisée par Jacques Brel via son port, évidemment. Alors, est-ce que le grand Jacques fait partie du panthéon de Brune, alors?
À ma connaissance, non. Ce serait plutôt Je prends ma respiration, Massive Attack, Portishead, le groupe de filles de Los Angeles, Warpaint, Billie Eilish, Alabama Shakes, Bass Bass, Nine Inch Nails, Massive Attack, Tennis, Metronomie, Placebo, Arcade Fire, L'Affaire Russe Trio, Frank Sinatra, Benjamin Biolay, Charlotte Gainsbourg, Chopin, Debussy, PJ Harvey ou encore Abba.
Alors le point commun avec tous ces gens-là, ce sont les mélodies. Ils ont tous des mélodies. Moi, je suis très attachée à la mélodie. Je pense que ça vient du côté classique que j'ai eu. Et souvent, on me dit que mes mélodies se retiennent bien. Je pense que ça vient de là. Et donc, tous ces artistes ont ça en commun. Il y en a beaucoup, vous avez cité, qui sont mélancoliques aussi. Ce mot revient souvent, mais c'est vrai que j'aime beaucoup ça. Beaucoup de sons qui font quelque chose au corps. Voilà. Je ne peux pas juste écouter une chanson et me dire « Ouais, c'est bien, j'ai besoin que ça me fasse quelque chose au corps. » Et Camille Bass Bass, c'est moins mélancolique, mais... Et là, j'ai trouvé, je me suis dit « Ah, ça fait du bien de la musique joyeuse aussi, légère et un peu funky. »
Cyclone de Brune qui le 29 mars dernier sur sa page a demandé aux internautes leurs impressions sur ses nouvelles chansons.
Voir leur titre préféré, vous lui avez demandé d'ailleurs ce qu'il en est ressorti.
Comment feras-tu ?
On n'a pas forcément répondu sur les réseaux, mais je crois qu'il y a Amsterdam, je crois qu'il y a Comment feras-tu ? Voilà la dernière de l'album en fait, qui parle beaucoup aux gens. C'est vrai qu'elle est assez intense cette chanson et qu'elle peut toucher pas mal de gens.
On a l'impression qu'elle arrive un peu en retrait de l'album et qu'elle est un petit peu, pas ovniesque, mais qu'elle est un petit peu à part.
C'est une chanson à part en plus car on l'a composée à deux avec Valentin et qu'on l'a faite en 5 minutes. Il a pris sa guitare, il a joué ses accords qui m'ont tout de suite inspiré une mélodie et franchement c'était fait en 5 minutes. Le texte aussi, et c'est pour ça qu'elle a peut-être ce côté... En tout cas elle avait un côté magique pour moi et qui me... Et peut-être que les gens le ressentent, je sais pas, il y a peut-être un truc comme ça...
À quand des chansons en arménien?
Ma mère attend que je chante en arménien. Elle me tanne. C'est dans les projets, oui, j'aimerais bien.
Merci beaucoup. Comment dit-on merci en arménien?
On dit merci, souvent.
Alors, merci.
Comment feras-tu les hivers quand le froid glacera tes os?
Comment feras-tu, Brune, extrait de son nouvel album Sombre Animal. Merci Alain et à vendredi évidemment pour le Café Gourmand. Le rendez-vous reprend dans un instant. Le journal sur RFI, on se retrouve demain évidemment avec les Indes Fourbes d'Alain Hérol et Juanro Guarnido chez Delcourt. Un superbe album de bande dessinée qui s'inscrit avec beaucoup de rythme, beaucoup de talent et beaucoup d'humour aussi dans la grande tradition espagnole du roman picaresque. Et vous m'en direz des nouvelles.